Mots positifs, le dossier.
Avec le docteur Catherine Gillin, neurologue, spécialiste en réadaptation fonctionnelle, on va parler de l'épilepsie et de la chirurgie en matière d'épilepsie. On rappelle que l'épilepsie, c'est un trouble électrique et chimique, c'est ça ?
Oui. Donc en fait, au niveau du cerveau, les cellules du cerveau, les neurones, sont des organismes, enfin des petites cellules qui sont d'un fonctionnement autonome et qui transmettent l'information l'une à l'autre par des espèces de câbles électriques qui sont les axones. Et la prise entre deux câbles électriques se fait avec une molécule chimique qu'on appelle un neurotransmetteur et qui est variable selon la zone fonctionnelle du cerveau.
D'accord.
Donc l'épilepsie, ça va être un dysfonctionnement électrique ou chimique ou les deux, qui va entraîner une espèce de court-circuit, si vous voulez, dans votre réseau électrique, avec en conséquence des zones qui ne sont plus fonctionnelles ou qui sont, entre guillemets, trop fonctionnelles. Quand vous voyez un patient qui fait une crise d'épilepsie avec, par exemple, des convulsions et des spasmes, c'est parce que l'ensemble de son cerveau est pris de décharges tout à fait anarchiques, tout à fait anormal qui finalement provoque une hyper-excitabilité et donc un hyper-fonctionnement pendant un temps, le temps de la crise. Après la crise d'ailleurs, on enregistre au contraire un aplatissement, il y a une espèce de zone de repos durant laquelle les neurones ne fonctionnent pratiquement pas et les gens en général dorment, sont en espèce de subcoma. Donc l'épilepsie c'est ça, c'est quand il y a une anomalie de fonctionnement, soit dans une zone bien spécifique, on appelle ça une épilepsie focale, soit à l'ensemble du cerveau, c'est une épilepsie généralisée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la zone focale peut, par effet domino, si vous voulez, par effet de transmission du dysfonctionnement électrique, s'étendre ensuite à tout le cerveau. On appelle ça une focale secondairement généralisée. Donc il y a des formes extrêmement variables d'épilepsie. Elles sont différentes chez l'enfant, chez l'adulte, chez la personne âgée. Elles peuvent parfois chez l'enfant se guérir avec l'âge, la maturation du cerveau. Donc celles-là, on ne les opère certainement pas, pour déjà le dire. Il y a des épilepsies d'origine génétique, c'est-à-dire que génétiquement, le seuil épileptogène, c'est-à-dire la zone limite à partir de laquelle on peut faire une crise, est abaissé. Parce que toute personne est potentiellement épileptique, c'est-à-dire faire une crise d'épilepsie. Mais donc, ce n'est pas un malade épileptique. Si vous n'êtes pas épileptique et que vous avez, par exemple, un traumatisme crânien, que vous avez une hypoglycémie sévère, que vous avez un trouble métabolique quelconque transitoire, un problème d'ion, de sel, de potassium, etc., vous pouvez faire une épilepsie par déséquilibre métabolique, mais ce n'est pas pour ça que vous devenez un malade épileptique.
C'est un peu comme une intolérance, dans ce cas-ci, une intolérance
C'est un dysfonctionnement, comme vous avez tout à coup un trouble du rythme cardiaque. Si vous avez aussi, par exemple, un trouble ionique, vous pouvez faire un trouble du rythme cardiaque, et ce n'est pas pour ça que vous devenez un patient dit cardiaque. Pour être épileptique, il faut avoir fait plusieurs crises dans sa vie, répétées dans des conditions que je ne vais pas reprendre maintenant. Mais donc, il y a des épilepsies que, de toute façon, on ne traitera jamais par la chirurgie. Enfin, jamais. Je vous ai déjà dit que je ne dis plus jamais. Les progrès étant...
En tout cas, pas aujourd'hui.
Voilà, les progrès étant tellement extraordinaires. Mais aujourd'hui, on ne traite pas une épilepsie généralisée à tout le cerveau, parce qu'on ne va pas aller intervenir sur tout le cerveau, bien sûr. On ne traite pas une épilepsie qui répond bien aux médicaments. Le premier geste thérapeutique, ce sont les médicaments qui vont soit stabiliser l'activité électrique anormale, soit stabiliser l'activité chimique anormale, soit les deux. Il faut que le patient soit dit pharmacorésistant, c'est-à-dire qu'on ait essayé plusieurs médicaments antiépileptiques qui ont des actions différentes, souvent de façon combinée, et que malgré tout, le patient continue à présenter des crises, mais des crises qui lui posent problème dans la vie de tous les jours. Je dis ça pourquoi ? Par exemple, il y a les crises nocturnes, qui ne sont pas envahissantes, qui ne sont pas dangereuses pour le patient, qui sont brèves, qui ne sont pas à risque, on ne va pas spécialement aller l'opérer puisque ça ne pose pas de problème particulier.
Ça n'engage pas son sommeil ou sa qualité de sommeil ?
Ça n'engage pas forcément, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y en a oui, il y en a non, mais il y a des formes nocturnes bénignes où finalement, voilà, avec un médicament simple, on arrive à les régler. Et en tout cas, s'ils en font, ça n'est pas potentiellement impact sur l'intellect, le cognitif ou la vie de tous les jours, que ce soit le type de métier que l'on a, la conduite automobile et les choses comme ça. Donc, si vous voulez, la répercussion clinique est évidemment très importante dans le choix de décision. Donc, on va penser à la chirurgie de l'épilepsie. Et d'ailleurs, il faudrait, je le dis tout de suite, y penser beaucoup plus tôt que ce qu'on fait maintenant. On y pense encore beaucoup trop tard. Chez un patient qui est pharmacorésistant ou qui a des effets secondaires importants de ces médicaments ou qui a des effets néfastes de son épilepsie parce qu'elle touche dans une zone particulière, par exemple avec une altération de la mémoire, une altération du comportement. Donc, à chaque cas, on va un petit peu voir le potentiel positif qu'il pourrait avoir d'une forme de chirurgie ou non.
Vous dites qu'on n'y pense pas suffisamment tôt. Est-ce que c'est dû au fait que c'est une opération quand même très délicate et qu'on préfère la réserver comme l'opération de la dernière chance ?
Non, enfin peut-être. Je crois aussi que c'est parce qu'on n'est pas encore très, très habitué, bien que l'épilepsie de la chirurgie existe depuis Hippocrate, depuis les Égyptiens, depuis très longtemps. Ouais. Chez nous, en tout cas, elle existe certainement depuis le début des années 80 et elle a pris un très grand essor grâce à toutes les techniques informatiques et à la neuronavigation dont on va parler et d'autres types de techniques. Mais donc, peut-être qu'effectivement, on n'a pas, entre guillemets, encore assez l'habitude d'y penser. Mais je crois réellement qu'actuellement, quand vous avez un patient qui reste gêné par son épilepsie et que malgré des essais de médicaments, il continue à faire un nombre de crises qui lui est potentiellement délétère, il faut l'envisager. Mmh. Et voir s'il rentre dans les critères, s'il est potentiellement à aider ou non. Parce qu'effectivement, parfois on arrive en faisant le bilan à dire non, ce patient, on ne peut pas l'opérer, bien sûr. Mais en tout cas, il faut faire la mise au point et il faut savoir si c'est quelque chose qu'on peut lui proposer ou pas. Alors vous dites à risque, ça dépend aussi, bien sûr, de l'endroit qu'on doit opérer, comment on doit y arriver. Et ça fait partie de la mise au point, c'est qu'on va déterminer si la zone que l'on doit pouvoir traiter est dans une zone fonctionnelle, importante ou non. Quelqu'un qui fait une épilepsie dans la zone du langage, c'est évident qu'on va être extrêmement réticent à aller chipoter parce qu'il risquerait de terminer aphasique par la suite. Oui. Donc tout dépend effectivement de beaucoup de critères. Mais en tout cas, il faut y penser et donc référer le patient au centre d'épilepsie réfractaire.
02 737 26 06 pour vos questions ou bien un message par SMS au 60 31. On revient bien sûr sur la chirurgie d'épilepsie dans quelques instants avec le docteur Catherine Gillin qui est avec nous pour répondre à vos questions. On répondra notamment à l'une des questions sur les épilepsies focales. Peut-il exister plusieurs centres et à partir de combien de centres on n'opère plus ? On y répond juste après Jean-Louis Aubert.
Au positif sur la première. Véronique Thiberguien.
Et le docteur Catherine Gillin, neurologue, spécialiste en réadaptation fonctionnelle. On parle de l'épilepsie et de la chirurgie. On va revenir sur l'aspect et l'idée focale. En fait, on a trouvé une chouette image pour expliquer un peu les choses hors antenne. Alors, on va refaire le point entre ce qui est focal et ce qui est généralisé pour montrer que ce n'est pas la différence entre les deux, c'est pas qu'il y a plus de nids dans le généralisé que dans le focal. Donc, prenons le cas du focal, par exemple. Donc, on sait déterminer un endroit, c'est ça.
Il y a un endroit du cerveau qui est une dite zone épileptogène, le nid, pour reprendre l'expression de la personne qui a envoyé le mail. Alors, soit ça reste sur place, un petit fusible qui claque et qui reste, qui ne s'étend pas à l'ensemble du bug de tout l'immeuble, comme vous disiez. Il peut avoir plusieurs petits fusibles à gauche, à droite, et que tout reste encore ouvert. Et puis, vous pouvez avoir, par contre, un fusible qui claque et puis que ça fait un bug dans tout l'immeuble. Ça, c'est la généralisée. Donc, à partir du petit fusible, ça s'étend vraiment comme une poudre, comme une explosion, avec, à ce moment-là, l'activité épileptogène qui s'étend à l'ensemble du cerveau. Donc, focal, c'est le petit nid. Secondairement généralisé, ça s'étend à tout.
C'est la conséquence, quoi.
C'est la conséquence. Par contre, on peut avoir plusieurs zones focales, mais qui ne se généralisent pas. Ça existe aussi.
Donc, on peut avoir plusieurs fusibles qui sont en mauvais état ou qui ne fonctionnent pas sans mettre en danger le reste de l'immeuble.
Absolument.
Mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut imaginer des opérations, puisqu'on parlait dans quel cas envisage-t-on la chirurgie, si on a plusieurs petits fusibles que l'on sait identifier ou que l'on pourra identifier par la suite, mais que l'on en a plusieurs, est-ce qu'on pourra agir sur ces fusibles-là ? Est-ce que la chirurgie est ouverte, là ?
Oui, potentiellement, oui. Une fois de plus, il faut étudier cas par cas, ça dépend les zones. Ça dépend l'origine. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une dysplasie corticale, c'est-à-dire que la zone du cortex, l'ensemble des neurones a été mal formé? Est-ce que c'est par exemple un problème d'une tumeur, d'une métastase? Donc il y a des causes. Tout ce qui provoque une anomalie de certains neurones est potentiellement épileptogène.
C'est ça.
Et donc, selon ça, selon l'endroit, est-ce que c'est profond, est-ce que c'est bien situé, est-ce que c'est mal situé, on va pouvoir agir. Mais, comme on l'a dit la fois passée avec l'émission sur le Gamma Knife notamment, parce qu'on traite aussi comme ça, bien sûr, il y a de plus en plus de possibilités. Si ce sont des petites zones réduites à moins de 3 cm, on peut envisager même les deux. On peut envisager, pour celles qui sont accessibles, une chirurgie dite à ciel ouvert, c'est-à-dire avec une trépanation, et pour celles qui sont moins accessibles, un complément par le Gamma Knife. Et donc, oui, on peut opérer plusieurs zones épileptogènes.
Quand on parle de chirurgie en matière d'épilepsie, on parle toujours de trépanation ou il y a d'autres techniques? Parce que je voudrais qu'on revienne un peu sur ce terme. Trépanation, ça fait toujours peur dans l'inconscient collectif, parce que c'est quand même un passé chirurgical, certes très ancien, mais aussi très lourd, parce qu'on en a des images quand même un peu particulières et parfois pas barbares, mais en tout cas aux conséquences beaucoup plus étendues. Aujourd'hui, on a gardé le terme, mais la technique est beaucoup plus pointue, beaucoup plus fine et plus subtile aussi.
Absolument. C'est vrai qu'il y a encore 20-30 ans, on enlevait une partie de l'os qu'on mettait sur le côté, qu'on remettait après, hein, bien sûr. Et puis effectivement, c'était dit à ciel ouvert, ça dit bien ce que ça veut dire. Et on avait vraiment, comme vous dites, la trépanation, on était rasé. Enfin, tout ça avait beaucoup d'impact psychologique sur le patient, c'est tout à fait exact. Actuellement, on a réduit considérablement, et notamment grâce aux techniques informatisées avec les mathématiques et tout ça de la neuronavigation, vous avez des trous de trépan qui sont, selon évidemment ce que vous devez enlever une fois de plus, mais qui peuvent être réduits entre 1 cm et 6 cm, ce qui est quand même petit, avec un patient qui n'est pas rasé, sauf dans la zone à laquelle on doit avoir accès, et avec effectivement, de toute façon, et ça c'est le plus important, une technique qui est devenue tellement pointue que les lésions que l'on doit faire au niveau du cerveau, le passage du bistouri, du scalpel ou de l'électrode stimulation, sont vraiment infimes et ont été préalablement étudiées pour être infimes, les lésions conséquentes. Et donc la trépanation en soi est devenue considérablement plus positive et a beaucoup, beaucoup moins d'impact que dans le temps. Et je vous rappelle que maintenant, de plus en plus, on opère des patients sans les anesthésier.
Ah oui, mais alors ça, j'ai encore du mal avec l'image. Mais je veux bien vous croire, hein, mais j'ai encore beaucoup de mal
avec
l'image.
Je vous invite à venir en salle d'op.
Non, ça va aller.
Je crois que c'est la meilleure chose à faire. Et donc, notamment aussi, dans une épilepsie focale, dans une zone parlante, une zone de motricité ou de langage, on les garde éveillés.
Ce qui est totalement idiot, ce que je viens de dire, parce qu'effectivement, quand vous devez tester l'électrode qui est mise en place dans le cerveau, il faut pouvoir le tester et le régler au moment même de l'opération et pas y revenir, évidemment, 15 jours ou toutes les semaines. C'est au moment même, donc de fait, la personne est consciente.
Oui, oui, oui. Bon, on a d'autres techniques. On peut enregistrer, évidemment, par des techniques d'électrophysiologie, etc. Mais on le fait de plus en plus parce que, comme je vous l'ai déjà dit, le cerveau ne sent rien. On peut trifouiller à l'aise.
Bon, ben, on va trifouiller, hein, justement, puisque c'est un peu le cas ici. Alors, juste pour revenir sur un élément, vous m'avez dit, on a parlé des personnes à qui c'était destiné. Vous avez notamment cité les personnes qui sont pharmacorésistants et pour qui, eh bien, la qualité de vie est quand même diminuée. Et on n'a pas précisé, mais c'est 30 à 40%.
Absolument. C'est 30
énorme.
À 40% des patients épileptiques qui sont pharmacorésistants. Donc, c'est énorme. Donc, il faut y penser.
Et pas hésiter à y
Pas hésiter à référer au centre d'épilepsie réfractaire qui, eux, font la mise au point complète. Alors, la mise au point complète, c'est quoi? C'est bien sûr un électroencéphalogramme de longue durée avec un contrôle vidéo pour voir quel type de crise c'est. Un examen d'imagerie par résonance magnétique extrêmement pointu. Ce sont des imageries qui sont très, très précises. Plus si nécessaire, ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel. Donc, on voit les zones fonctionnelles par où, effectivement, quels sont leurs rapports, si vous voulez, avec les zones épileptogènes. On fait ce qu'on appelle un scanner cérébral à positron qui montre toutes les zones métaboliques. La zone épileptogène, la zone adjacente, comment fonctionne-t-elle? On fait un examen neuropsychologique, c'est-à-dire les différentes répercussions cognitives de l'épilepsie sur le patient, notamment la mémoire, parce qu'il y a une forme d'épilepsie réfractaire extrêmement fréquente qui se trouve en profondeur de lobe temporal où il y a effectivement la zone de la mémorisation. Donc ça, c'est indispensable à faire. On fait un examen psychologique pour voir si le patient sera capable effectivement d'aborder la chirurgie et, figurez-vous, la guérison, parce que on a beaucoup de problèmes quand vous vivez depuis 30-40 ans avec votre épilepsie au quotidien et que tout à coup vous ne l'avez plus, il y a des gens qui décompensent,
mais non,
qui font des dépressions sévères, voire des psychoses. On appelle ça la normalisation forcée. Et donc, ce n'est pas facile. C'est vraiment pas évident parce que vous êtes tout à coup quelqu'un d'autre. C'est un petit peu comme si vous faisiez une chirurgie plastique et que vous avez un autre visage. Quelque part, vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Vous n'êtes plus à vivre avec cette épilepsie en permanence pour laquelle vous réfléchissez. Est-ce que j'ai médicaments? Est-ce que je sors? Est-ce que j'accepte l'invitation? Machin, bazar. Donc, c'est très important de pouvoir voir si psychologiquement le patient va pouvoir le vivre. Alors, si on ne parvient pas par ces moyens-là à identifier clairement le foyer en cause dans l'épilepsie, on a déjà recours à la neurochirurgie, cette fois-ci à titre diagnostique. On a bien sûr, avec toutes ces techniques, une idée de l'endroit où on doit aller chercher. Il y a deux façons de faire. Soit on trépanne le patient à ciel ouvert cette fois-ci, et il reste, si vous voulez, en salle d'opération, et on colle sur le cortex des bandelettes avec des électrodes pour vraiment identifier les zones du cortex qui sont responsables de l'activité épileptique. Si ce n'est pas en surface, à la partie extérieure de votre cerveau, mais que malheureusement la zone épileptogène est fort en profondeur, alors dans la même idée qu'on a parlé de la mise en place des électrodes dans la stimulation cérébrale profonde, on va mettre des électrodes en profondeur dans les zones dites suspectes.
Et on fait tout ça le même jour ? Enfin, je vous dirais, une fois que vous avez mis dans les zones suspectes les électrodes,
on enregistre pendant 10 jours.
Pendant 10 jours.
Des jours.
Des jours.
Ah, jusque quand on sait.
Donc on referme et on ne referme pas. On ne referme pas.
Relax. Voilà. On ne referme pas, mais on identifie les zones et donc on sait si on peut aller opérer ou pas.
Mais on peut ne pas refermer un crâne
Bien sûr. Oh. Pas un problème. Du moment que vous n'avez pas...
Oui, enfin, vous restez à l'hôpital en
chambre stérile
et tout ça. Oui, d'accord.
Voilà, qu'on vient pas, vous n'avez pas éternué sur vous, bien sûr.
Oui. L'image est jolie.
Il n'y a aucun problème. Donc, on fait ça. Alors, si le patient peut être opérable, on a effectivement recours à la neuronavigation. Et là, pour comprendre la neuronavigation, il faut un petit peu comprendre la technique du GPS, la géoposition le système de localisation par géoposition par satellite, en fait. Et dans la même idée, si vous voulez, le chirurgien, mais ici, la différence, c'est que ce n'est pas simplement brancher le GPS, dis-moi par où je vais aller. Ouais. On fait avant une espèce de simulateur de vol, comme quand vous apprenez à voler ou bien que vous allez vous amuser à la foire, à conduire. Donc on parvient, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à créer, si vous voulez, l'image virtuelle en trois dimensions du cerveau du patient et à localiser la zone épileptogène à laquelle on va devoir avoir accès, épileptogène ou autre. La neuronavigation s'utilise pour toutes ces techniques neurochirurgicales. Puis, le neurochirurgien, avec l'informaticien et avec les mathématiciens, vont aller faire une simulation d'opération. Puis, tout ça va être transféré, évidemment, avec des repères précis de stéréotaxie au niveau du patient lui-même. Et en salle d'op, ça, c'est aussi l'avantage. Comme quand vous êtes avec votre GPS, vous avez déterminé votre chemin. Et puis, tout à coup, vous voyez qu'il y a une nouvelle route. Vous pouvez en cours encore changer. Ce qui se passe, c'est qu'en permanence, dans son viseur et au bout de son bistouri, le neurochirurgien a l'information de la route, si vous voulez.
Ah, c'est ça. Oui, d'accord.
Et la route a été traduite pour passer par le moins possible de zones importantes, bien sûr, et pour arriver tip-top sur la petite cible que vous voulez atteindre. Et donc, en cours de chirurgie, on peut encore adapter. Ça, c'est assez génial.
Donc, ça veut dire que la petite voix, au fond, quelque part, c'est la voix de l'informaticien qui va, lui, analyser...
Tout ça, c'est la machine qui le fait.
Et puis, l'informaticien, au fond, renvoie une image au chirurgien qui devient la petite voix où il y a un tracé et le chirurgien n'a plus qu'à, entre guillemets, suivre ce tracé.
Qu'à, entre guillemets, absolument. Ouais. Alors, soit il le fait, entre guillemets, tout seul, soit il peut encore se faire assister par un robot qui, lui aussi, a une tâche active dans l'acte neurochirurgical. Alors, cet acte neurochirurgical, que va-t-il être ? Il peut être curatif, palliatif ou stimulation.
Et on y revient dans quelques instants. D'accord. Comme ça, on pourra en reparler. 02 737 26 06, vous communiquez avec nous, bien sûr. Le docteur Catherine Gillin répond à vos questions. On parle de chirurgie en matière d'épilepsie. On revient, bien sûr, sur le but de cette chirurgie, plutôt, les buts. Et vous verrez qu'il y en a des très différents en fonction de ce que l'on recherche, bien sûr. Et puis, on parlera, bien évidemment, de demain.
Au positif. Jusqu'à midi, sur la première.
Avec le docteur Catherine Gillin, neurologue, bien sûr, on parle de la chirurgie en matière d'épilepsie. Alors, on l'a dit, la chirurgie a plusieurs buts, pas forcément les mêmes qui sont recherchés. Donc, on a dit curatif, palliatif ou stimulation ou rééquilibre. Quoi.
Tout à fait. Donc, curatif, l'idée, c'est qu'on va aller resséquer le foyer. Donc, on a identifié une zone épileptogène, on l'enlève, théoriquement. À ce moment-là, on est tranquille. C'est vrai que ça peut donner d'excellents résultats, surtout si c'est des petites zones. Évidemment, quand c'est des zones plus grandes, que vous arrivez non pas à faire un petit bout de cortectomie, mais que vous êtes carrément en lobectomie, on peut avoir des problèmes de déficit, on peut avoir des problèmes même d'espace vide. Le cerveau n'aime pas l'espace vide. C'est un risque d'hémorragie, d'apparition d'hématomes sous-dural et des choses comme ça. Donc, on est de plus en plus dans l'idée de réduire ça. On va le faire, bien sûr, si c'est tumoral, par exemple. Ça, on va enlever la tumeur. Mais si c'est une anomalie du cortex au départ, on a un petit peu moins tendance à faire des résections, mais à faire plutôt des déconnexions. C'est-à-dire que l'on va, si vous voulez, couper autour de la zone épileptogène les petits circuits pour isoler cette zone et qu'il n'y ait plus de propagation. Alors, il y a donc un petit risque que le patient garde éventuellement des petites manifestations épileptiques peu importantes, qui répondent assez bien à ce moment-là aux médicaments. Mais si vous voulez, les séquelles sont quand même moins envahissantes que quand on fait une ablation, d'autant si la zone est large. Mais ça a donné de très bons résultats dans des anomalies congénitales chez l'enfant, par exemple. On fait même parfois des hémisphérotomies, donc on enlève carrément, s'il y a une moitié de cerveau qui est très très abîmée, on a fait ça de pouvoir l'enlever. Maintenant, on fait de plus en plus, comme je vous dis, l'isolation pour que ça ne passe plus d'un hémisphère à l'autre. On a fait pendant longtemps ce qu'on appelle la callosotomie. Donc, le corps calleux est une espèce de grande structure qui vraiment passe les informations d'un hémisphère à l'autre. Ça, c'était assez courant. Mais on va de plus en plus actuellement vers la déconnexion des zones épileptogènes pour empêcher l'extension.
Parce que vivre avec une moitié de cerveau, ça va avoir des conséquences quand même sur sa vie qui sont toutes presque aussi
pas toujours.
Intolérables.
Si le cerveau au départ était très très abîmé, on n'avait pas toujours de grosses séquelles.
C'est ça.
Parce qu'il n'était déjà pas très fonctionnel.
Donc au fond, c'est quand même toujours une étude, une réflexion sur la balance de l'avant et de l'après.
Absolument. Absolument. D'où la mise au point très très précise. Quelle est la zone épileptogène? Quel est son impact en tant que zone épileptogène sur la vie actuelle du patient? Et si on l'enlève ou on l'isole, quelles en seront les conséquences positives et négatives? C'est vraiment ça qu'il faut étudier.
Curative, quand on parle de curative, est-ce qu'on on peut être curatif à 100%?
Oui.
Ah oui?
Oui, oui.
Ouais, donc c'est...
Oui, oui. On peut avoir vraiment d'excellents résultats avec des patients qui n'ont plus du tout de crise. Maintenant, les statistiques, bien sûr, on se réfère toujours aux statistiques, donnent quand même des résultats, selon les études, entre 65 et 80% à 5 ans, parce qu'il faut toujours voir à long terme. Mais oui, on peut avoir des résultats extrêmement impressionnants et encourageants.
Mais on peut faire ce genre d'opération alors très jeune déjà.
Oui. Oui, bien sûr.
Des nourrissons? Pas trop, non. Un peu plus tard quand même.
Oui, plus tard, mais on en perd des enfants, bien sûr. On en perd des enfants, des adultes, sûrement.
Dans la qualité de vie, alors ça c'est quelque chose qui trouble quelques-uns de nos auditeurs, évidemment, c'est qu'on ne touche pas d'autres zones et que finalement les effets secondaires éventuels ou les séquelles secondaires sont assez réduites, voire inexistantes dans certains cas. Ça tient à la neuronavigation et à l'étude du chirurgien et à la préparation avant, bien sûr. Mais le cerveau étant aussi quelque chose de très subtil et très complexe, est-ce que des effets secondaires peuvent apparaître par la suite, des années plus tard?
A priori, non. Vous pouvez toujours avoir des risques d'hémorragie mais carrément immédiates, mais des années plus tard, non. Si vous avez vraiment fait la mise au point complète, vous avez déterminé potentiellement. Mais il ne faut pas oublier, je crois que ça c'est très important, que les effets secondaires des médicaments sont parfois extrêmement lourds. Donc,
et plus à long terme aussi.
Mais oui, avec vraiment l'apparition de troubles de la santé à long terme. Bien sûr, il ne faut pas se leurrer. On a comme ça, on sait très bien qu'après 10-20 ans d'un tel médicament, le patient est à risque de développer telle ou telle chose. Donc, les médicaments, ok, c'est un geste qui paraît plus bénin parce qu'on avale juste un truc 2 à 3 fois par jour, mais ça ne l'est pas forcément. Donc, une chirurgie dont l'indication a été clairement définie a, au jour d'aujourd'hui, et certainement encore mieux dans les années à venir, parce qu'on progresse énormément, de plus en plus de chances d'être bien bénéfique.
Le nerf vague, que l'on stimule aussi, c'est quoi? Il est où ce nerf? C'est celui, il relie la tête, il descend dans le cou, c'est ça? Et il arrive à peu près jusqu'au début du thorax?
Bien plus loin. Donc le nerf vague, son nom vient du fait qu'il est tellement étendu que les anatomistes de l'époque se demandaient un petit peu jusqu'où il allait.
Oui, oui, alors vaguement, ça s'arrête là.
Voilà. Et donc, c'est le nerf le plus grand, le plus long de tout le corps. Et effectivement, comme vous le dites, il a vraiment une relation entre l'activité électrique du cerveau et plusieurs autres zones du corps, dont toute la zone digestive. Il régule beaucoup nos fonctions digestives, la voix, parce qu'il régule au niveau du larynx et du pharynx. Le cœur qui se ralentit, c'est une action parasympathique du nerf vague. Le nerf vague, en fait, court le long de la carotide.
Oui.
Si vous voulez provoquer une syncope chez quelqu'un...
Ah, c'est ça.
Voilà.
Vous
le massez.
Ah, on
vous
le masse. Cette zone. Ne vous massez pas, Catherine Gilles. On a encore besoin de vous.
Sinon, je ne terminerai pas l'émission. Donc, vous pouvez effectivement provoquer une syncope. Donc, on a trouvé l'idée de mettre... Donc, le stimulateur se met... au niveau du thorax, derrière la clavicule, et puis le petit fil va s'enrouler autour de la carotide et va aller stimuler le nerf vague de façon répétée. On ne sait pas exactement le mode de fonctionnement, mais ce que l'on se rend compte, c'est que quand il y a une décharge épileptiforme qui apparaît chez le patient, cette décharge est fortement atténuée par le stimulateur nerf vague. Enfin, quand je dis fortement, c'est quand il marche. Il faut être honnête que on a des effets positifs, c'est à peu près 3-3-3. On a 33% pas d'effet, 33% amélioré, 33% moins bien.
Oui, ce qui est, le fait qu'on ne sache pas très bien comment ça marche...
Mais ça marche.
Bah oui,
c'est un peu bizarre. Alors, ce n'est pas trop envahissant non plus.
Non, c'est juste un petit électrode sous le cutané, quoi.
Si vous avez un patient... moi, j'ai eu un patient, justement, qui avait sa zone épileptogène dans la zone du langage... qu'on a fini d'ailleurs 15 ans plus tard à quand même opérer, qui va très bien. Mais à l'époque, on n'osait pas, on lui a mis un stimulateur.
C'est ça.
C'était logique dans la progression. Chez certains enfants aussi, qui ont des épilepsies congénitales très, très réfractaires et très généralisées, ça a du sens de l'essayer. Donc le stimulateur du nerf vague est vraiment quelque chose à laquelle il faut penser actuellement. Mais l'avenir, pour l'instant, on est beaucoup dans l'étude de... justement de stimulation cérébrale profonde, comme on en a déjà parlé dans le Parkinson beaucoup, avec, on pense, des implantations au niveau du thalamus aussi et parfois du cortex, donc où on irait stimuler la zone déséquilibrée pour la rééquilibrer, si vous voulez.
Ça, c'est pour demain. Enfin, c'est en cours d'étude. On l'a dit, il ne faut jamais dire jamais, puisque les avancées en matière
absolument.
De pratique chirurgicale sont quand même assez
extraordinaires.
Et donc, on sera attentif, docteur Catherine Gilles, à tout ce qui pourrait arriver dans les prochaines années en la matière, et on en reparlera. Dès que vous avez des nouvelles, vous venez nous voir.
D'accord.
D'accord. En attendant, je vous souhaite de belles vacances, malgré tout, puisqu'on se retrouvera la saison prochaine, si
avec
vous le
plaisir.
Voulez bien. Et on aura beaucoup de plaisir à redécouvrir et à découvrir ce cerveau en votre compagnie. Je vous propose, pour poursuivre, si vous le voulez bien, de parler du corps humain avec les enfants.